Alors, donc, voyez, vous avez un, oui, vous avez une décision à prendre, voyez. Par exemple, vous avez une personne qui, voilà, qui vient sur Paris, que vous ne connaissez pas, vous êtes curé de paroisse. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de lit, voyez. Alors vous vous mettez dans une salle commune avec quand même de l'eau et des toilettes. Voyez. Vous l'accueilleriez chez vous, sur le canapé, peut-être aussi, ça serait plus. Vous voyez, mais. Voilà. Donc, la vie est compliquée, c'est la vertu de prudence. Et la vertu de prudence, c'est l'acte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Alors, par rapport à ce qui est bon ou mauvais, attention. La vertu de prudence vient après l'estimation de ce qui est bon ou mauvais pour moi, vrai ou faux. Donc, ensuite, vous avez la vertu de justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. À nouveau, c'est une vertu qui dépend du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bon à donner? Qu'est-ce que je n'ai pas à donner en justice? Vous voyez? Quelqu'un vous demande, est-ce que vous auriez 5 000 euros à me prêter ou à me donner? Est-ce que vous êtes obligé de le faire en justice? Non. Mais si votre enfant, qui a 1 an, est malade, est-ce qu'en justice, vous devez payer le médecin? Oui. Vous ne devez pas dire, ah, ben c'est à toi de payer. Va chez le médecin. Donc ça, c'est la justice des parents, c'est la justice des enfants. Et quand les parents sont âgés, eh bien, il doit y avoir un retour juste vis-à-vis des parents. Les enfants doivent s'occuper de leurs parents. Et ça, pour le coup, voyez-vous, autant la société moderne a poussé les gens à ne pas avoir d'enfants, à avorter, autant quand on est né, en général, on ne tue pas la personne. Vous voyez? Comment dire, donc, et puis pour les parents, l'euthanasie n'a pas encore été totalement légalisée et on n'en est pas à considérer maman, maintenant que tu as 82 ans. Alors, cette vertu de justice, on ne peut pas dire qu'actuellement, on est retiré ça même de pays où on n'a que 1 ou 2 enfants. Les parents sont attentifs à leurs enfants, dépensent beaucoup d'argent pour leurs études et autres. Bon. Ensuite, les enfants se soucient de leurs vieux parents. Et même dans des pays où on a limité le nombre d'enfants, on va s'occuper de ces vieux parents, voire même on va habiter avec eux, surtout en campagne. Mais en France, il n'y a plus beaucoup de campagne et on met les parents dans des maisons de retraite et puis voilà. À partir d'un certain âge. Dès qu'il ne... Et puis comme la médecine moderne maintient en vie longtemps, ben, on arrive à des âges de 82, 87 ans et les enfants n'ont plus la patience d'autrefois de mettre au coin du foyer la vieille grand-mère qui était là près du feu et qui faisait pas de bruit, qui surveillait les petits-enfants ou qui faisait du tricot. Voilà. Actuellement, on voit quand même, malgré la vie citadine, des grands-parents avoir une vie de village en quelque sorte, dans le sens où ils. Comment dire? Ils s'occupent de leurs petits-enfants, ils vont garder leurs petits-enfants, ça fait et c'est normal et c'est naturel. Ensuite, si vous voulez, il faut habiter dans la même ville. Quand des enfants partent avec leurs enfants dans une autre ville, ils peuvent plus faire connaître leurs grands-parents comme la nounou.
Pardon.
La grand-mère, le grand-père qui garde les enfants. Alors. Mais quand on n'a pas ses grands-parents, c'est là qu'on s'aperçoit que ça coûte cher des nounous, ça coûte cher de faire garder ses enfants pour ceci, pour cela. Et en plus, comme le travail des femmes est très répandu et que eh bien la mère de famille n'est plus à la maison en permanence ou s'occupe des enfants en permanence, tout cela tire sur la justice, voyez, sur la prudence. La force, elle, est une vertu qui vous permettra justement de tenir bon dans les difficultés qui seront dues à votre tempérament ou aux péchés capitaux. Parce qu'on résiste à des tensions, à des querelles, à des disputes, à des incompréhensions inutiles. Et en fait, on rétablit la paix par force, force d'âme, parce qu'on veut l'essentiel, qui est la paix, et vieillir ensemble. Pour être solitaire, pour être célibataire, il faut des vertus particulières, où on le subit, où on le choisit. Et le prêtre, par exemple, consacré, le moine, la moniale, choisissent une vie de communauté, choisissent une vie qui n'est pas une vie conjugale, et pour eux, ils auront d'autres manières d'exercer leur vertu. Et... Mais lorsqu'on vit à deux, lorsqu'on partage le même lit, qu'on partage la même salle de bain, eh bien, c'est d'autres patiences. C'est d'autres patiences qu'on a. D'ailleurs, la vraie force n'est pas dans l'agrédit, c'est-à-dire dans la résistance brutale, colérique parfois même. Elle est dans le soustinéré, c'est-à-dire dans le fait de supporter les choses qui sont désagréables, parce qu'elles peuvent disparaître aussi. C'est pas de la résignation nécessairement. Et la tempérance, eh bien, c'est le remède à la luxure et à la gourmandise. Alors maintenant, que donne le mariage par rapport à ses vertus? Le sacrement de mariage, ou même le mariage naturel sacré. Le mariage est forcément religieux, parce qu'il est lié à la création divine. Tout mariage demande une prière, tout mariage demande une assistance de Dieu, car il est fort pour l'homme de vivre en couple. Donc deux non-baptisés, deux bouddhistes, deux hindouistes, deux animistes, lorsqu'ils se marient, dans leur société, dans toutes les sociétés, il y a un acte solennel, il y a un acte familial. On sait qu'il se passe quelque chose de particulier dans la nature humaine. Il n'y a pas un mariage qui se passe sans une certaine solennité, un engagement familial, un engagement social. Ce caractère naturel du mariage fait qu'il y a un lien. Et ce lien est sacré. Il est différent de la vie ordinaire. Donc, lorsque l'un des fiancés n'est pas baptisé et qu'il ne demande pas directement, même s'il connaît le christianisme, mais si est-ce que vraiment Dieu est le Dieu des chrétiens? Est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a sacrement chrétien de mariage, puisque l'un des deux n'est pas totalement convaincu. Pour qu'il soit totalement convaincu, il faudrait qu'il demande le baptême, c'est-à-dire de croire que Dieu s'est fait homme et qu'il s'est laissé tuer sur la croix. par la haine humaine, par la déception humaine, par l'impatience humaine. On veut le bonheur tout de suite, on veut l'argent tout de suite, on veut la santé tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui nous dit d'être patient, de nous aimer les uns les autres simplement? Eh bien, le peuple a été déçu et le peuple a demandé sa mort, avec surtout les chefs qui étaient jaloux du Christ, parce qu'il était le grand prêtre à venir, il était le grand roi, mais un roi qui prenait pas le pouvoir militaire, un roi qui leur demandait d'obéir à Dieu dans la finesse d'âme, dans la justice, dans l'honnêteté, dans le pardon quotidien, sans prendre le pouvoir temporel. C'est insupportable pour eux, en fait. Ils auraient préféré, vous voyez, qu'ils le prennent, ce pouvoir. Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, où était le signe de la présence de Dieu, du Dieu des Juifs, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Jésus est reparti du temple. Il n'a pas pris le pouvoir. Parce qu'il n'avait pas à le prendre. Il est lui-même le pouvoir spirituel. Il est le pouvoir du cœur. Il est Dieu, donc il n'a pas à prendre le pouvoir. Dieu n'a pas à prendre le pouvoir sur terre. Dieu nous juge sur le bien et le mal. Il nous pardonne parce qu'il est bon et miséricordieux. Mais ultimement, il nous demandera, qu'as-tu choisi entre l'amour et la haine? As-tu fait la guerre toute ta vie? Ou as-tu fait la paix? Attention, on peut défendre les innocents. On peut faire des... Il y a une légitime défense. Le fait de ne pas défendre sa famille, de ne pas défendre son pays, c'est contraire à la paix, à la vraie paix. Mais est-ce qu'on a été des hommes de querelle? Est-ce qu'on a été des hommes de dispute, de guerre? Et ça, Dieu nous jugera, ça c'est sûr. Eh bien, le mariage dans le baptême implique le sacrifice jusqu'à accepter de pardonner excessivement. Et le christianisme pardonne excessivement. En règle générale, dans les autres religions, le pardon est moins demandé. Il y a une justice plus stricte. On punit. La justice du roi, la justice de l'empereur est rigoureuse. Mais voilà que dans toutes les religions que les hommes ont bâties dans leur âme, il y a quand même l'évocation de la miséricorde et du pardon. Mais voyez-vous, nous nous imaginons même pas la religion des Incas qui offrait des victimes au soleil de manière extrêmement cruelle. Donc, si vous voulez, on est face à cette exigence de l'amour mutuel qui fait que dans le mariage chrétien, il repose sur la foi. C'est-à-dire que croire que Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais un Père, qu'il a envoyé sa parole, son Verbe, pour se faire un petit bébé, pour naître d'une femme. Et donc, du coup, la religion devient aussi le Dieu créateur et tout-puissant et une femme. Oui. Donc, la vertu de foi, c'est de croire non seulement que Dieu existe, mais que qu'il pense à nous, qu'il nous a créés. Vous voyez qu'il n'est pas simplement une énergie, une puissance anonyme. Et même, voyez-vous, lorsque il y a des... Alors, je ne sais pas, quelle est votre culture? Elle est plutôt bouddhiste?
Oui.
Mais alors, pour vous, est-ce qu'il y a un Dieu personnel? Un créateur?
Non.
C'est la nature.
Non, dans la culture chinoise, on a une autre, on s'appelle comment, légende.
Oui.
C'est une femme qui a créé les humains et la nature aussi.
Et quelle est cette femme? C'est une déesse.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, elle est puissante, cette femme.
Oui, Nuwa.
Oui.
Oui, c'est cette femme qui a. La personne, elle a fait les humains par la terre.
Oui.
Donc il a fait des poupées comme ça et puis les gens deviennent vivants.
Mais ça, c'est pas le pur bouddhisme, ça. Ça, c'est
Non.
la tradition chinoise, ça.
Ça, c'est la tradition chinoise. Et après, il y a bouddhiste, taoïste, taoïsme aussi.
Oui.
Et oui, Confucius aussi.
Oui.
Oui.
Confucius, c'est pas vraiment une religion, c'est une
Non.
sagesse.
Oui. Philosophie.
Tandis que le bouddhisme, lui, consisterait à penser quand même que le bonheur consistera à ne pas désirer, à ne pas avoir de désir. Seulement, du coup, en soi, normalement, si on est vraiment, on suit vraiment le bouddhisme, on ne devrait pas désirer retrouver ses parents après la mort.
Parce que tout le monde sont égaux.
Oui. Oui, mais qu'est-ce qui se passe après la mort?
Après maman aussi on part, on s'appelle le Jiye, c'est le monde joyeux.
Oui, mais pas dans le bouddhisme strict. Dans le bouddhisme strict, on ne retrouve pas, on n'a pas d'être personnel après la mort.
Non.
C'est la tradition chinoise qui dit qu'il y a un ciel.
C'est compliqué parce
C'est
qu'on a
compliqué.
six étapes, six mondes, on s'appelle.
Oui.
Premier, dans ces six mondes, il n'y a pas de Bouddha. Ça veut
Oui.
dire, si on suit bien le bouddhisme, après on sort de ces six systèmes
Oui.
et on est éternel. Et après, ce sont on s'appelle comment? C'est comme Dieu ou quelqu'un qui a des magies ou quoi.
Autre niveau.
Non, et après c'est une autre, c'est comme des. Comme aussi des.
Des anges, des esprits.
On peut dire que ce sont des anges et qui habitent dans les montagnes, dans la mer, comme ça.
Des esprits, oui.
Oui, et après c'est être humain, c'est troisième déjà. Quatrième, c'est. Ce sont des animaux. Après, ce sont des. C'est pas diable. C'est dans l'enfer.
Oui,
Oui.
des
Les
démons.
dernières, ce sont des diables.
Oui. Alors voyez-vous, c'est impressionnant de voir que la tradition chinoise recoupe la tradition adamique. Voyez. Parce que, si vous voulez, la pensée humaine ne peut pas s'empêcher de penser, d'avoir l'intuition d'esprit, d'entité spirituelle existante, qui ne sont pas avec un corps humain. Les démons, les diables. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, lui, nous dit, je suis moi-même un esprit, je ne suis pas le soleil, je ne suis pas un crocodile, je ne suis pas un singe, je ne suis pas une montagne, je ne suis pas le fleuve. Donc ça, il le dit aux hommes pour que les hommes n'aient pas peur des éléments. Je ne suis pas dans le tremblement de terre, je ne suis pas dans, comment dire, dans l'ouragan, voyez, dans le tonnerre, dans l'éclair. Et ensuite, vous voyez, les êtres humains certains vont vouloir se retrouver en famille, après la mort. Et donc, vous avez des religions qui vont insister sur ces retrouvailles. D'autres sont plus froids sur cette question et du coup, veulent une gloire. Vous voyez, le Valhalla pour les Nordiques, c'était le paradis des guerriers. On ne savait pas trop où était la place des femmes. Vous voyez, et dans l'islam, si vous voulez, les femmes aussi sont assez absentes du lieu de bonheur des hommes. Elles sont à leur service. Voyez. Alors c'est la raison pour laquelle la religion chrétienne s'est répandue à travers le monde, parce que aussi bien la femme que l'homme a sa place, avec le Christ, avec la Vierge Marie, avec les saintes et les saints. Et, voyez-vous, on a le... Comment dire, une... On discerne entre la récompense et la punition avec beaucoup plus de, si vous voulez, de finesse du fait que Dieu s'est fait homme et il a exprimé à la fois cette justice et ce pardon. Et c'est, vous voyez, Noël, ça va être un petit bébé dans les bras d'une maman. Et du coup, vous voyez, le Dieu stratosphérique, tout-puissant, éloigné de la vie humaine, se fait proche. Ouais.
Mais les Bouddhas aussi, ils étaient humains.
Oui, mais ils ne sont pas Dieu.
Non.
Non.
Quand on monte, quand on est sorti de 6 systèmes,
oui.
On est tout le monde, ce sont des Bouddhas. Mm-hmm. Donc tout le monde, il n'y a pas de Dieu supérieur que nous.
Oui.
C'est ça.
Oui, sauf que ce n'est, comment dire, il n'y a pas d'effet sans cause. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des dieux. Et si nous étions des dieux, ben on s'empêcherait de vieillir, on s'empêcherait de mourir. Et d'ailleurs, l'impuissance de Bouddha fait qu'il dit, ben, il vaut mieux ne pas être, ou être autrement. Et c'est un peu, il y a une certaine fuite dans la philosophie bouddhiste, vous voyez, par rapport à la vie, à vivre, à affronter. Et dans la réconciliation quotidienne, dans la construction quotidienne, vous voyez, d'implication, de miséricorde, vous voyez. Mère Teresa en Inde, avec l'hindouisme qui est très fataliste, elle dit non, il n'y a pas de fatalité. Si un bébé est malade, on le soigne et on s'occupe de lui. Si un vieillard est malade, on le soigne et on s'occupe de lui. Et donc, on se retrouve avec une femme qui vient de je ne sais plus, elle était
albanaise,
et qui va développer des hospices et des orphelinats dans toute l'Inde, parce que les hindous n'y avaient pas pensé. Ouais. Il a fallu que ce soit une chrétienne qui leur donne ceci. Cette compassion et le fait qu'on... On ne méprise pas sa propre... Enfin, méprise. On ne relativise pas la vie de l'autre. Voyez. Alors, d'où la vertu d'espérance, parce que on croit qu'on sera récompensé parce qu'on fait le bien, parce qu'on fait des efforts. Voyez. Le fait que le Christ ait interdit le divorce. Dieu interdit le divorce. Imaginez un peu la tête de tous ceux qui divorcent et que Jésus leur dit, eh ben, il faut se réconcilier, il faut se pardonner. Mais c'est impossible, ni de l'un, ni de l'autre, ou de l'un, ou de l'autre. C'est très particulier. Et donc, lorsqu'on souffre, on se dit, oui, mais je souffre. C'est pas moi qui vais me résigner, c'est à lui de se résigner. Et voyez, ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, c'est aussi l'espérance que ces efforts ne seront pas inutiles. Et l'espérance, c'est que Dieu va nous aider. On ne repose pas sur ses propres forces vertueuses. Et Confucius développe tout un système de vertus. Mais il ne prie pas beaucoup dans son système. Il ne demande pas à Dieu de l'aide. le secours divin. C'est très, si vous voulez, tendu dans l'effort humain. Vous voyez ? Oui. Oui.
On priait quelque chose à notre famille, la santé.
Oui, mais dans le confucianisme aussi.
Oui.
Parce que le Confucius, oui, le Confucius va avoir un culte des ancêtres. Et donc, il y a une certaine contradiction ou incohérence avec le bouddhisme.
Mais en Asie, surtout en Chine,
tout est mélangé.
C'est beaucoup influencé par les autres.
Tout à fait. Mais voyez, comment dire, le christianisme n'est pas dans le relativisme religieux. Il dit, il faut choisir. Ou vos parents continuent d'exister et ils peuvent prier pour vous, ou ils sont dans la bouddhéité. Il faut choisir. Mais si vous voulez, des peuples qui ont été habitués à ce mélange depuis des siècles, eux ont du mal à choisir. Ce qui pourrait les pousser à choisir à un moment donné, c'est d'avoir des réponses claires sur la vertu authentique et surtout les efforts de vertu. Confucius, lui, ne va pas forcément encourager le pardon ou l'acte héroïque. Il veut la stabilité du pouvoir et des classes du pouvoir. Ce qui n'est pas déraisonnable non plus, parce que il faut pas que l'État soit en anarchie. Oui. Soit dans le désordre. Confucius est très ordonné. Mais, justement, Confucius est totalement contraire à la révolte des jeunes contre les anciens. Les jeunes doivent toujours obéir aux anciens. Ça, c'est certain. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le maoïsme, Confucius a été à un moment donné attaqué, oui. Parce que les jeunes faisaient la révolution. Et...
Non, ça c'est le marxisme.
Oui, tout à fait. Le maoïsme, le marxisme. Eh bien, voyez-vous, la charité dans la révélation chrétienne va aller au-delà de la vertu naturelle et de la justice. Voyez, c'est pour ça que lorsque deux baptisés se marient, eux vont imiter le Christ, vont parfois même accepter des contrariétés comme le Christ a accepté de souffrir. Mais c'est pas souffrir pour souffrir, c'est pour obtenir de toucher le cœur de l'autre pour qu'il arrête de faire du mal. Et s'il continue à faire du mal, alors là on entre peut-être aussi dans un certain sacrifice. Mais le but est quand même aussi de toucher le cœur et de convertir les personnes pour qu'on avance ensemble. Voyez. Mais le chrétien va peut-être supporter plus que ce que naturellement on va admettre. Voyez. Voyez. Donc, c'est pour ça que parfois on reproche aux chrétiens d'être trop gentils ou d'être, voyez, c'est pas. Et si actuellement les sociétés anciennement chrétiennes font des guerres, voyez, ou sont inexorables, d'autres vont nous dire mais vous êtes des chrétiens, vous devriez pas faire ça, c'est injuste. Quelle est la philosophie, quelle est la religion, entre guillemets, de l'ONU? Quel est le droit international, le droit des gens, voyez, par rapport à la guerre juste, la guerre injuste, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voyez. Et qui en juge? Eh bien, nous-mêmes, nous sommes appelés à avoir cette... au sein d'un couple, on ne va pas faire un tribunal pénal international. On va pas faire venir les troupes de l'ONU, non, dans la maison. Donc la paix, la patience, les compromis se font dans le couple. On peut faire intervenir des personnes de la famille, on peut des ambassadeurs, on peut multiplier, mais ultimement dans un couple, c'est quand même d'âme à âme, hein, plus que. Alors vous pouvez avoir de très bons amis, vous pouvez avoir de très bons parents aussi qui vous conseillent bien. Et d'où le lien qu'il y avait avec des parents. Mais dans la vie rurale, les parents, ils étaient à 100 mètres, hein, ou à 500 mètres. Ils habitaient dans le village, ou dans le village à côté. Mais même dans la vie moderne, même dans la vie citadine, eh bien, on a encore cette possibilité de prendre conseil pour agir prudemment. Allez. Alors, si vous tournez la page, dans la religion chrétienne, on cultive particulièrement ce qu'on appelle les fruits de l'amour de Dieu, du Père et du Fils, le Saint-Esprit, qui est de considérer que Dieu est notre Père, qu'il n'est pas dame nature, un créateur absent et lointain. La prière est beaucoup plus filiale. La joie, c'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui est bon dans la vie et on va le faire résonner. On va pas tout le temps voir ce qui va pas pour être triste. Et des personnes malades qui sont joyeuses parce qu'elles aiment, parce qu'elles font du bien et ne font pas de mal alors qu'elles sont malades, mais elles font pas de mal. Où elles n'ont pas de haine, où elles n'ont pas d'envie, où n'ont pas de jalousie. Il y a de la joie. En elles, il y a une véritable joie. Vous voyez, c'est. Il y a un moment donné, un malade qui dit à une infirmière : vous êtes chrétienne. Pourquoi ? Mais parce qu'elle était patiente, souriante, plus que la moyenne. C'est. Si vous voulez, bon, je tire la couverture à. C'est normal. La paix. Qu'est-ce que c'est que la paix ? C'est que on considère que justement le mal n'est pas écrasant et que la paix de notre âme est plus importante que ses soucis ou ses inquiétudes. Et. Mais ça, Confucius pourrait le dire en disant « Arrêtez de vous troubler ou de penser toujours à ce qui va mal. Hein, et pensez plus à ce qui est bon dans votre vie. » Et là, mais ça, c'est du simple bon sens. Et la patience, justement, par rapport au mal. Par rapport au prochain, la bénignité, c'est être bon, être une source de bonté pour les autres. Et la bonté, c'est l'état stable de cette bénignité, de souhaiter le bien, et d'être bienveillant. La longanimité sera la patience pour obtenir un bien qu'on sait qu'on obtiendra qu'avec le temps, un bien lointain. On est longanime lorsqu'on sait que il va falloir du temps pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais c'est, vous voyez, c'est la mansuétude, eh bien, c'est le pardon. Le mot pitié de nos jours est devenu péjoratif. Celui qui a de la mansuétude, c'est celui qui écoute. Et qui est bienveillant, qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui pardonne ou qui est indulgent. Et la foi, voilà, c'est le plus difficile, n'est-ce pas ? Parce que c'est la foi par rapport au prochain, c'est-à-dire, c'est de le croire. voyez, de lui faire confiance. C'est beau, hein, mais seulement par rapport à son propre corps, c'est la modestie. Ne pas s'habiller avec un chapeau à plumes et des chaussures avec des talons ou des semelles de 10 cm. C'est original. On peut le faire pour une fête, mais c'est pas modeste. La continence, c'est de savoir réprimer ses pulsions de sensualité. Et la chasteté, et comme la continence, c'est de poser l'acte sexuel d'une manière spirituelle, pas dans la passion animale, voyez, mais qu'il y ait en même temps une pensée d'amour. Et on peut être chaste et être marié et avoir posé l'acte sexuel conjugal régulièrement. La chasteté ne consiste pas à s'abstenir de l'acte sexuel, mais de le poser de manière vraie. La continence, elle, nous diffère l'acte sexuel pour des raisons d'ordre et de bonté. Les dons du Saint-Esprit, la sagesse, c'est la connaissance des choses les plus importantes. L'intelligence, c'est discerner les choses les plus pratiques. La vertu de conseil, le don de conseil, c'est de savoir réfléchir et connaître les meilleurs moyens et demander à Dieu des lumières. La force, comme don du Saint-Esprit, ça va être une patience surnaturelle, au-dessus de la justice humaine. La science, ça va être de savoir dans les actes quotidiens ce qu'il y a à bien comprendre et à voir. C'est encore plus pratique que l'intelligence. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Oui. La piété, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enseignants, vis-à-vis de ceux qui nous font du bien. Et la crainte de Dieu, c'est de se rendre compte que Dieu, lui, attend notre obéissance. Mais il attend notre amour en retour, pas seulement l'obéissance. C'est craindre de faire de la peine à Dieu. Craindre ses parents, au sens noble du terme, ce n'est pas avoir peur d'eux, parce qu'ils vont nous punir, ils vont nous priver d'argent ou d'héritage. Craindre ses parents, c'est avoir peur de leur faire de la peine. Parce que c'est injuste de leur faire de la peine.